la radio Interco. C'est 5 villes.
C'est la Comcom Vallée de Hérault
avec plusieurs espaces jeunes du territoire
réunis pour une même émission.
Chaque mois, de nouveaux sujets. Découverte d'une profession, d'un patrimoine, d'une passion, partager nos idéaux.
On abordera la culture, mais aussi les sujets qui intéressent les jeunes.
Jeunes mais pas trop.
Bienvenue sur Radio RPH. Je m'appelle Brice et je serai votre animateur dans l'émission Je ne mets pas trop. Je serai accompagné de Mia.
Bonjour.
De Kélian.
Bonjour.
De Théo.
Salut.
De Flore.
Bonjour.
Et d'Arthur.
Salut.
Aujourd'hui, nous sommes réunis anciens et nouveaux. Nous sommes jeunes citoyens. Et cette émission est en partenariat avec la communauté de communes de Vallée de l'Hérault. Et pour cette première partie, nous allons parler d'événements sportifs et culturels. Flore, je te laisse la parole.
Le week-end dernier, nous sommes allés voir un concert de l'orchestre de Montpellier.
Et il y avait quoi comme instruments ?
Il y avait des flûtes traversières, des hautbois, plein d'instruments à vent, et il y avait des violons, des contrebasses. Et il y avait un grand contrebassiste, Monsieur Voisin.
Dis-moi, Flore, quel genre de musique était là-bas ?
Plutôt des musiques classiques et une de jazz de Théotime Voisin, qui était donc le contrebassiste.
Où se passait ce concert ?
Au gymnase de Gignac.
Est-ce que tu connaissais quelqu'un qui jouait ?
Non, à part Théotime Voisin, que j'avais déjà vu jouer dans plusieurs orchestres.
Flore, qu'est-ce qui t'a plu dans la musique classique ?
C'est surtout de voir les gens jouer à une vitesse plutôt étonnante et d'écouter la musique. Et j'ai même failli m'endormir, donc elle était très belle, la musique.
Pour que tu arrives à presque t'endormir, ça devait être de la belle musique, alors.
Oui, parce qu'il n'y avait aucune fausse note. Et surtout, il s'accordait qu'avec un seul instrument. Il n'y avait qu'un violon qui faisait un la et tout le monde s'accordait juste sur cette note. Donc c'était assez impressionnant quand même.
Dis-moi Flore, combien de temps a duré ce concert ?
1h45.
C'est long quand même, 1h45.
Bah quand même, il y avait beaucoup de musique. Et
as-tu compté combien de musique il y avait ?
Il devait y en avoir 5 ou 6.
Et combien durait chaque musique ?
Y en avait 3 morceaux dans une musique. Il y en avait qui duraient 30 minutes et d'autres qui duraient 9 minutes.
Est-ce que c'était gratuit l'entrée ou c'était payant pour aller au gymnase pour voir le concert ?
Ah non, c'était gratuit, il fallait juste réserver des places.
Mais toi, sinon, tu fais du violon aussi ?
Oui.
Et tu t'entraînes où ?
À l'école de musique de Gignac.
C'est comment l'école de musique de Gignac ?
C'est plutôt petit, mais il y a une très grande salle où je révise pour faire des concerts.
As-tu déjà fait un concert ?
Oui.
Combien ?
Déjà 3.
Il y a beaucoup de personnes ?
Ben en fait, il y a plutôt 3 violons 1, 4 violons 5 violons 2, 2 violons 3 et après il y a plein de violoncelles et une contrebasse.
C'est quoi les violons 1, 2 et 3 ?
Ben les violons 1, c'est ceux qui jouent le thème, les violons 2, c'est ceux qui donnent aussi un peu le thème mais qui accompagnent et les violons 3, ils accompagnent avec les violoncelles et la contrebasse.
Mais il y avait combien de personnes
de public ?
Ouais, de public.
Y avait les parents et ceux de la famille et des gens inconnus, donc je sais pas trop.
Quand va être ton futur concert de violon ?
Le 18 mars.
On pourra tous venir te voir alors.
Où ?
À 7.
Oula, c'est un peu long quand même. C'est pas comme à Gignac. Et tes derniers concerts, tu les faisais où ?
À Gignac, à Montpérou et à Saint-Félix.
C'est pas mal tout ça.
Et c'est à 15h30.
Et ta famille aussi, elle fait du violon ?
Non, ma mère fait de la contrebasse et ma sœur de la flûte traversière.
Et est-ce que ta mère, elle fait des différents types de concerts ?
Elle est dans un groupe de musique actuelle à l'école de musique de Gignac aussi. Et elle en a un deuxième groupe avec ma sœur et d'autres personnes aussi à l'école de Gignac. Et après, elle a l'orchestre à cordes où j'y suis aussi.
Et toi, Brice, sinon tu fais quelque chose de particulier aussi ?
Oui, je faisais du basket. Ça fait bientôt un an que j'ai arrêté. Mais je voulais parler d'un moment sportif qui est mon match de basket contre Montpellier. Nous avons gagné 42 à 40. C'était un match serré. C'est moi qui ai marqué le dernier.
Et c'était où ?
C'était au complexe sportif de Saint-André.
Et il y avait beaucoup de personnes ?
Il y avait beaucoup de personnes, oui. Il y avait surtout mes parents, mes amis et des gens que je connaissais pas.
Est-ce que les adversaires étaient plutôt grands ou à votre taille ?
Des deux. C'était un match plutôt serré, donc ils se défendaient bien, ils avaient une bonne défense.
Et dans quel groupe jouais-tu ?
Je jouais dans le groupe de SABCH, Saint-André Basket Cœur d'Hérault. Notre prof est Shiraz, petite dédicace.
Et tu as arrêté à quel âge ?
Ben, j'ai arrêté peut-être à 8 ans et demi, là ça fait bientôt un an que j'ai arrêté.
Et maintenant tu fais quoi un peu ?
Je fais beaucoup de tennis et de batterie surtout.
Et t'es dans quel club de tennis ?
Je suis dans le club de Saint-André.
Et t'es dans quel club de batterie ?
C'est pas des clubs, c'est des horaires. Si
à quelle école ?
À quelle école ? Je m'en souviens plus, en tout cas c'est proche de ma maison.
Tu faisais d'autres instruments avant ou pas ?
Oui, je faisais du piano, je faisais de la flûte et c'est tout.
Et beaucoup d'instruments. Et t'as déjà fait et des concerts ou des matchs de tennis ?
J'ai pas fait de tournoi de tennis spécialement. J'ai fait le match de fin d'année. Et pour la batterie, ben, j'ai déjà fait un petit concert. C'était mon tout premier concert, du coup je stressais. J'ai pas eu d'erreur, j'ai été bon, voilà.
Et au tennis, tu as gagné ou ?
Au tennis, puisque c'était ma première année, j'ai pas été très ouf. J'ai gagné un match. Denis, à la fin, il m'a dit « Faut peut-être arrêter là, parce que si tu continues, tu vas avoir encore plus de défaites, du coup, ça va pas le faire. »
Et t'as fait ce match où ?
J'ai fait ce match au terrain de tennis de Saint-André, à côté du complexe.
Est-ce que je peux dire qu'on dit pas match, mais tournoi ?
On peut faire un débat.
Ah ouais ? Pain au chocolat ou chocolatine ?
Non, mais ce qu'elle dit, tournoi A ou match ?
Bah déjà, on dit un match pour le basket et on dit un tournoi pour le tennis.
Attention, faut pas fusionner match et tournoi parce que il y a des tournois de basket.
Non, mais ça n'existe pas,
mais
les tournois
si,
de basket.
Ça existe.
Non.
C'est une catégorie de match. Par exemple, oui, quand tu vas en huitième de finale, c'est un match dans un tournoi.
Mais non, ça s'appelle un plateau quand tu joues plusieurs matchs.
Mais justement, un plateau, c'est pareil que tournoi, c'est un synonyme.
Mais oui, mais sauf que tournoi, c'est pour c'est pour avec des raquettes. Alors que match, non, c'est pour avec des ballons.
Pas forcément, il y a des tournois de foot, tu vois.
Bah oui, mais...
Non, on dit des matchs de foot.
Ben voilà.
Oui, des matchs de foot, mais il y a des tournois de football.
Non, ça s'appelle des plateaux de foot.
On dit des... Et tournoi et des matchs.
Non, on dit des plateaux.
Oui, on dit les trois.
Bon, tu dis comme
débat.
Tu dis comme si. Tu veux. Moi, j'appelle ça un tournoi, c'est tout.
Et ben moi, j'appelle ça un plateau.
Et
alors là, on va parler un peu de chacun notre pratique sportive. Arthur, quelle est ta pratique sportive ?
Moi, je fais pas de sport.
Ah, comment t'es en forme alors ?
Sport de l'école.
Ah là là, Arthur. Et toi, monsieur Kylian ?
Fais-tu quelque chose d'intéressant ?
Pas Kylian.
Oui, je fais du badminton, du handball, du tennis de table. Et c'est bon, et c'est tout.
Et moi aussi, je fais du badminton.
Bididone. Théo ?
Moi, je fais de la moto, du vélo, du kite, du hike.
Tu fais de la moto à ton âge ?
Oui.
Genre, c'est un jour, je vois un mec avec un casque. Avec un casque qui fait de la moto, je lui dis « Ah, ça, c'est Théo !»
Oui. Et c'est quoi comme genre de moto ?
C'est de la moto trial. C'est comme la motocross, sauf que t'as pas de selle.
Ah. Bah, comment tu fais pour t'asseoir ?
Bah, tu t'assois pas.
Tu restes tout le temps debout.
T'as jamais vu un vélo sans selle ?
Un vélo trial. C'est un vélo trial.
Ça a pas de sens.
Bah si, un vélo sans selle, c'est pour des trucs de haut de gamme.
C'est ceux qui ont mal aux fesses et qui peuvent pas s'asseoir.
Et toi, Flore, tu fais quoi comme sport ?
Bah, du basket, du coup.
À part ça, tu ne fais rien d'autre ?
Si, du badminton.
À part ça, tu ne fais rien d'autre ?
Attends, si.
On va continuer longtemps comme ça ?
Non.
Bah, à moi, personne ne me demande. Oh là là.
Et toi, Mia ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, moi, je fais beaucoup de sport. Je fais du badminton, du roller, en club, bien évidemment. Et ensuite, je fais les activités
scolaire. Et en ce moment, on fait gym et course relais.
Et tu en fais où du roller ?
À Clermont-l'Hérault. Roller et... dance. Est-ce que je place la petite pub ? Oui.
Ok, et pour tes autres sports, tu les fais où ?
Le badminton, je le fais... en fait, le collège, il propose un club de badminton. Et j'y suis avec toi. Et avec...
Kélian et Flore. Et sinon, je fais quoi d'autre ?
Les activités scolaires.
Oui, à part les activités scolaires, rien d'autre.
Je fais de la guitare.
Ok, bah c'est cool. T'en fais où ?
À la maison.
Ah, et t'as pas de professeur ?
Non.
Ah si, j'en ai un.
Bon,
c'est
Mia.
Mon téléphone.
Je vais conclure cette première partie. En résumé, nous avons parlé d'événements sportifs et culturels. Nous avons parlé de débats entre match et plateau et tournoi. Donc, je vais vous laisser avec ce titre prenant de Clap Your Hands. Et à tout à l'heure.
Tout de suite, Clap Your Hands.
Clap Your Hands. Oui, merci.
Tout de suite.
Rebonjour sur Radio RPH dans l'émission Je ne mets pas trop et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné pour cette interview de Théo.
Salut.
De Kélian.
Salut.
De Flore.
Bonjour.
Et d'Arthur. Et pour cette deuxième partie, nous allons interviewer Eugénie Loison, une professeure de musique d'un instrument à cordes un peu spécial.
Bonjour, moi c'est Flore et je vais poser quelques questions. Quel est l'instrument que tu joues ?
Bonjour Flore, bonjour tout le monde. Donc je suis Eugénie Loison et je joue du violon.
D'accord. Et quel est ton style de musique ?
Alors j'ai eu une formation de musique classique. Et par la suite, en fait, quand on passe par cette formation, on peut aller dans beaucoup de styles, ce qui fait que j'ai pu jouer de la musique irlandaise, des musiques de l'Est, des Balkans. J'ai pu jouer du rock, du folk, de l'électro, du jazz et des musiques orientales.
Du jazz.
Est-ce que le violon est un instrument compliqué ?
Alors ça, c'est la grande question. Je crois que tous les instruments sont compliqués. Du moment qu'on veut bien en jouer, en fait, il faut travailler, travailler et travailler des heures, répéter, s'entraîner à la maison, très régulièrement. N'est-ce pas, Flore, qui est mon élève ?
Oui.
Ce qu'il y a de difficile au violon, en fait, c'est au départ, quand on commence à l'apprendre, la posture qui n'est pas naturelle, puisqu'on se retrouve les bras un peu en l'air, en lévitation, comme ça, n'est pas évidente à trouver. Et en plus, il faut créer le son avec l'archer, poser les doigts pour faire les notes, contrairement, par exemple, à un piano qui va être un petit peu plus simple d'abord, puisqu'on appuie sur la touche et que le son, il sort. Voilà pourquoi on dit que le violon est très compliqué. Et comme c'est un tout petit instrument, il demande énormément de précision. Ce qui fait que, par exemple, quand on est en position de jouer, quand on est tout petit, sur un violon, au niveau des écarts qui sont les plus grands, la précision de la justesse est à 0,7 mm. Donc on est à moins 1 mm de précision. Voilà pourquoi le violon semble très compliqué.
Dans combien d'orchestres joues-tu ?
Alors la question, elle est pas évidente parce qu'en fait, je n'ai pas véritablement d'orchestre attitré. C'est-à-dire que je vais faire partie de formations lors d'événements, lors de concerts, où on m'appelle parce qu'il y a des besoins de violon, il y a des besoins en effectif. Donc je vais intervenir au sein de l'orchestre Contrepoint, qui est un orchestre basé sur Montpellier, qui réunit à géométrie variable les enseignants et les musiciens dans l'Hérault. Ensuite, j'ai joué avec l'orchestre Agapé aussi, qui est situé sur le même principe, qui est situé à Agde. Après, j'ai des formations où on m'appelle en studio d'enregistrement pour faire des albums, pour faire les parties de violon sur des albums folk, rock, de chanteurs. La formation Amri des musiques orientales, qui est une chanteuse, et d'ailleurs, c'est très certainement la seule chanteuse française qui chante en arabe.
Et tu diriges des orchestres ?
Alors, je dirige l'ensemble à cordes de l'école de musique de Gignac. Ensuite, j'interviens aussi dans un stage d'orchestre symphonique amateur d'Occitanie, aux ADOC. Et cette aux ADOC, en fait, je peux diriger l'orchestre de temps en temps pendant les répétitions. Et puis, je suis chef des pupitres de premier et second violon pour faire travailler les élèves et les stagiaires pendant toute la durée du séjour de une semaine qui se finalise sur 6 concerts, dont un à Saint-Bosile-de-la-Sylve, qui est dans la communauté de communes, le 28 avril à 18h.
Quelle est la différence entre un violon et un violoncelle ?
Bonjour Brice. Alors la différence entre un violon et un violoncelle, bon déjà elle se situe à la taille, au niveau de la taille de l'instrument. On voit que le violon il est tout petit et que le violoncelle quand même, il faut se mettre assis, le placer entre les jambes et se positionner pour jouer. La différence elle vient au niveau de la tessiture, à savoir est-ce que l'instrument va jouer grave, aigu ou médium. Et le violoncelle va jouer dans les sons graves. Et le violon va jouer dans les sons médium aigus.
Est-ce qu'on peut jouer sans archer au violon ?
Oui, on peut jouer sans archer, juste avec l'index de la main droite. Et ça s'appelle les pizze, qui veut dire en italien pincer. Donc on pince la corde comme les guitaristes avec la main droite. Et ça s'appelle pizzicato.
D'accord, merci pour ces renseignements.
Dites-moi, où enseignez-vous ?
Alors j'enseigne le violon à l'école de musique intercommunale de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Et j'enseigne aussi, je dirige aussi l'ensemble à cordes de l'école de musique.
D'accord. As-tu des musiques ou artistes préférés ?
Alors, c'est tellement vaste que c'est une question très difficile à laquelle il faut répondre. Et en fait, comme je vais repartir de ce qui m'a donné envie de faire de la musique quand j'étais petite, c'était le concert de Wembley de Freddie Mercury du groupe Queen. Et je crois qu'il restera et qu'il sera mon artiste préféré avec Led Zeppelin. J'adore le rock.
Quel genre de musique apprenez à vos élèves ?
Je passe de Bach jusqu'à nos jours. Donc Bach, c'est l'époque baroque. Je passe aussi par les musiques irlandaises. C'est-à-dire qu'on n'apprend plus par la partition. La partition qui est juste une information. Hein. On passe par l'oralité. C'est-à-dire que je fais comme en Irlande. J'apprends les morceaux par l'oreille. C'est-à-dire que les élèves écoutent le morceau et vont imiter ce que je vais faire. Et ils apprennent les morceaux par cœur, comme ça. Ça s'appelle la transmission orale.
Très bien. Est-ce que tu es déjà allé dans des festivals ?
Alors oui, j'ai fait le festival Electro We Are Together au Dock des Suds de Marseille. Ça, c'est impressionnant. Quand j'étais, il y a un moment, j'avais joué avec l'orchestre international catalan au Festival international de la jeunesse. Ça, c'était une expérience extraordinaire. Mais j'ai fait plein de festivals, mais je ne m'en rappelle pas. Si, j'ai Sylvanès, le festival de Sylvanès. Alors là, c'est un petit peu plus solennel, puisque c'est orchestre, chœur, musique classique, beaucoup de messes, de requiem, qui sont des pièces extraordinaires et magnifiques à écouter et à jouer aussi. Et j'en ai fait plein, mais je ne me rappelle pas de tous. Bon. Mais ça, ce sont les principaux qui m'ont marqué.
Est-ce que tu as des expériences musicales qui restent dans ta mémoire ?
Oui, alors justement, on parlait du Festival de la Jeunesse à Barcelone. Nous avons joué une sardane qui est une musique traditionnelle catalane. Mmh. Et cette sardane qui a des paroles. Alors là, c'était l'orchestre qui jouait, donc des paroles n'y étaient pas. Il y avait un public de 3500 personnes. Et quand on a joué cette sardane, 3500 personnes se sont mises à la chanter en même temps que nous. Et ça a été une émotion et un moment de communion fabuleux. Et après, il y en a une autre qui est un peu plus particulière parce que c'est un endroit, un lieu de concert où on n'attend pas forcément, où on s'attend pas forcément à avoir un violon. C'est le Rock Store et on m'a appelé pour faire le solo de Baba O'Reilly des Who. Et j'ai dû en 2 minutes mettre le feu à la salle avec mon violon. Et ça a été une expérience juste extraordinaire parce qu'entendre le public crier pendant qu'on joue parce qu'il est juste heureux, c'est quelque chose qu'on ne vit pas du tout en musique classique.
Est-ce que tu as déjà travaillé à l'étranger ?
À l'étranger, non. Avec une personne que j'aime beaucoup, qui est Neil Conti, anglais, qui était très connu dans les années 80 et en fait qui était le batteur de David Bowie.
Merci pour vos réponses à mes questions.
Merci à toi.
Quelle est la différence entre un violon et un alto ?
Au même titre que le violoncelle, la différence entre le violon et l'alto est une question de tessiture d'abord. Le alto va jouer dans les médiums graves alors que le violon joue dans les médiums aigus. Après, ils ont une petite différence parce que la posture est exactement la même. On est un petit peu en lévitation, l'arche à la main droite, l'alto ou le violon au cou. Mais la différence va résider aussi dans la taille. Comme c'est un instrument un petit peu plus grave, c'est un instrument qui va être un petit peu plus grand et lourd, du coup.
Okay.
Un petit peu lourd. Alors, comme Fleur est mon élève aussi, et qu'on se connaît un petit peu, on va s'amuser à inverser les rôles, et c'est moi qui vais poser des questions. Alors, tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir si le violon était un instrument compliqué à apprendre. Je vais te demander, Flore, est-ce que le violon est un instrument compliqué à apprendre ?
Ben, ça dépend pour les personnes. Et ben, pour moi, c'est un peu compliqué pour les doigtés parce que j'ai du mal à les placer au bon endroit. Mais après, j'ai de l'expérience, comme dirait Eugénie, mais il faut que je m'applique mieux.
D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait faire que, par exemple, tes doigtés, apprendre les notes, les coups d'archet, etc., ça serait plus facile à exécuter ?
Ben, en travaillant.
Ah, ben voilà, tu vois, on a tous la réponse. La musique, c'est une question d'entraînement. Donc, si on veut bien jouer de la musique, en fait, il suffit de le faire régulièrement et toujours avec...
De l'application.
Et ensuite ?
Écouter son prof.
Et le dernier ?
En jouant doucement, en respectant les doigtés.
Tu restes très intellectuel, là. Avec le
plaisir.
Ah, merci.
Eh bien, merci pour cette interview. Merci d'avoir été présent à cette émission. Et auriez-vous les dates pour les prochains concerts ?
Alors, sur la communauté de communes, je serai le 1er avril avec Jennifer pour un programme Troubadour des temps modernes sur le marché de Gignac à 11h. Le 28 avril avec l'orchestre Osadoc à Saint-Bosile-de-la-Silve à 18h. Et pour finir, le 29 mai, avec un quintet violon, violoncelle, saxophone, flûte, trombone, sur un répertoire jazz avec des reprises de Bill Evans et de Gershwin.
D'accord. Bah, en tout cas, je serai pas là pour le premier concert parce que j'ai dentiste.
Thank you.
Arthur, vous êtes toujours sur Radio Pays d'Hérault. Nous sommes en présence d'un apiculteur et nous allons poser des questions. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Salut Arthur, salut toute l'équipe, salut tout le monde. Donc moi c'est Kevin et ma fille Lucia qui est présente aujourd'hui avec nous. Nous sommes les seuls apiculteurs pour l'instant du village. Et voilà, donc ça s'appelle le rucher de l'abeille douce. Et nous t'expliquerons pourquoi ce nom-là.
D'où vous est venue l'idée du nom ?
Arthur, ce nom, en fait, si tu veux, tous les apiculteurs aujourd'hui recherchent une abeille douce. Comme tu peux le savoir, tout le monde le sait, je veux dire, une abeille, ça pique. Ça pique pas sans raison, une abeille. Ça pique quand on l'attaque, quand on l'écrase, quand elle se sent menacée. Voilà. Aujourd'hui, on travaille sur la génétique. Ça se fait de plus en plus. Chez beaucoup d'apiculteurs, on travaille sur la génétique justement pour pouvoir travailler sans les gants. C'est de gros efforts qu'on fait aussi parce que c'est très dur. Mais voilà, on travaille sur la génétique pour avoir une abeille douce, la plus douce possible. Donc quand on ouvre la ruche, on sait déjà d'entrée aujourd'hui si elle va nous attaquer ou pas. Il y a une odeur, il y a des phéromones, il y a plein de choses comme ça maintenant qui fait qu'on peut arriver à détecter si la ruche va être, gentille ou méchante.
Et vous êtes installé où ?
Alors nous sommes à Saint-André-de-Saint-Gonis, en bas de la rue du Couvent. Nous avons une petite miellerie maintenant qui est installée depuis à peu près 4 ans, qui est ouverte pratiquement tous les après-midi selon nos disponibilités. Et tous les dimanches matin, vous pouvez nous retrouver sur le marché du village à Saint-André-de-Saint-Gonis.
Vous avez combien de ruches environ ?
Alors aujourd'hui, c'est très dur de te dire, Arthur, combien de ruches on a sur tous les ruchers qu'on a. Avec le froid, le temps, la météo capricieuse, on va dire. C'est très dur, il faut compter, mais compte à peu près dans les 150 ruches.
Ah oui ! Et vous produisez à peu près combien de miel ?
Pour répondre à ta question, Arthur, rapidement, c'est très compliqué aussi. Eh oui, c'est très compliqué depuis 2 ans. Après, il faut savoir que moi, je suis de la 3e génération donc d'apiculteurs de ma famille. Ma fille sera la 4e qui est à mes côtés. Notre record, ça a été 6,2 tonnes de miel à la main. Je dis bien à la main.
Qu'est-ce que vous entendez par « à la main » ?
Eh bien, quand on te parle de 6 tonnes, tu peux imaginer dans ta tête un camion, par exemple, rempli de sable, rempli de terre. 6 tonnes de miel, tu te rends compte, ça fait une montagne de miel, tu vois ? Voilà, donc à la main, si tu veux, on a un extracteur, pas manuel, mais on a un extracteur électrique, mais si tu veux, tout le procédé d'operculage, comment t'expliquer pour faire plus court, plus simple, je veux dire, avec un couteau, on coupe la cire, si tu veux, d'opercule sur les cadres pour que le miel puisse couler à la centrifugeuse. Donc tout ce procédé fait à la main. Le filtrage est fait à la main aussi, comme à l'ancienne, avec des torchons, des chiffons, donc il reste assez trouble dans les pots de miel. C'est quand même un procédé ancien.
Vous pouvez nous expliquer comment les aléas de la nature impactent la production ?
Alors, les aléas de la nature, comme tu dis, c'est très compliqué, très compliqué. Comme je t'expliquais tout à l'heure, le matin, en pleine nuit, si tu veux, il fait du moins 3, du moins 4. Et on se retrouve avec du 17 à 21 en plein après-midi, quoi. Donc, si tu veux, les abeilles, les pauvres, elles sont en train de s'acclimater. Mais pour s'acclimater, il va falloir des années et des années parce que ça va pas. C'est pas leur principe, là, instantanément à faire, quoi.
Le réchauffement climatique a beaucoup, beaucoup touché les abeilles, donc.
Ah, mais bien sûr, carrément, quoi. Pour nous, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe, hein.
Est-ce qu'il y a 20 ans, vous avez vu du coup la différence entre aujourd'hui et avant, les changements qu'il y a pu avoir en une vingtaine d'années ou même dizaine d'années ?
Voilà, j'allais te reprendre et te dire 20 ans, c'est trop, mais par contre 10 ans, oui, on a beaucoup vu le changement entre les maladies, entre les pesticides et entre le climat. Ça, c'est sûr, hein, on n'avait pas tout ce gel, on n'avait pas ce manque d'eau. tout ça, quoi.
Est-ce que c'est plus compliqué, du coup, de le faire à la main? La production, elle est moindre? Ou il n'y a pas une grosse différence entre les grandes productions et les petites?
Non, en fait, les petites productions, on n'a pas le choix, parce que déjà, le coût du matériel est énorme. Donc, si tu veux, on est obligé de... Pour rester petit, on est obligé de faire ce travail-là à la main.
Ah, c'est pas un choix, c'est par dépit.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quand on a minimum 1000 ruches, ouais, entre 1000 et 1500 ruches, une chaîne, on appelle ça une chaîne d'extraction, ça coûte dans les 200 000 euros, quoi. Donc,
c'est le prix d'une maison.
Voilà, c'est le prix d'une maison. Et aujourd'hui, être apiculteur, entre parenthèses, on ne sait pas où on va, quoi. C'est très, très, très compliqué. Beaucoup de mes connaissances arrêtent chaque année. Hein. Cette année, il y en a deux de plus, malheureusement. Mais nous, on résiste, on tient. Mais c'est très dur, très dur, très dur.
Mais vous pouvez être du coup plus fier du fait que vous ayez ce contact avec les personnes, donc vu que vous les vendez directement en main propre, non? Contrairement aux grandes productions qui donc le mettent dans des supermarchés, il n'y a pas cette relation client.
Alors, on appelle ça le réseau court, tout ce qui est dans les petites boutiques ici. Et les clients aussi se rendent compte maintenant que les produits locaux sont de meilleure qualité. Certes, un peu plus cher, ça c'est normal. Moi, je revendique mon miel parce que c'est mon miel, c'est le miel du village. Très peu le font, hein. Il y a des apiculteurs de Saint-André qui n'ont pas du miel du village, quoi. Voilà, moi je défends mes fleurs, je défends mon département, je défends l'Occitanie, je défends mes fleurs, je défends mes abeilles, mon village, et on résiste avec ma fille, ma famille et tout ça pour continuer.
Et vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi l'histoire de l'entreprise que vous avez dit en trois générations, ça veut dire que ça a commencé il y a longtemps?
Alors oui, ça a commencé par le pépé, hein, on l'appelle le pépé, donc c'est des familles de beaux-pères, on va dire. Mais c'est ma famille, oui, donc ça a commencé du pépé, après ça a été mon beau-père, hein, et ensuite ça a été moi. Donc moi j'ai commencé, ça fait plus de 20 ans, entre 15 et 20 ans que je travaille avec mon beau-père, et dans les Pyrénées-Orientales, hein, tu vois, c'est même pas dans l'Hérault. Et un jour il me dit, tiens Kevin... tu devrais prendre deux ou trois ruches et les mettre à la maison dans les roues chez toi, ça ferait tes petits pots de miel. Oh, j'ai dit, tu sais Jean-Pierre, trois ruches, je travaille tous les jours avec, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec trois ruches à la maison, quoi, j'en ai marre. Hein. Et puis, bon, il me dit, si, il a insisté. Bon, j'ai pris ces trois ruches, voilà, aujourd'hui j'ai développé mon cheptel de 150 ruches et j'ai repris toute son activité car maintenant il est à la retraite. J'ai repris toutes ses ruches, tout son ancien matériel que lui avait du pépé. Il faut savoir que j'ai des ruches en chêne, des vraies ruches pour les abeilles, quoi. J'ai des ruches qui ont plus de 50 ans. C'est phénoménal, quoi. C'est comme du bon whisky dans un bon fût de chêne, tu vois, de plus de 25 ans, quoi. Voilà. Moi, j'ai des ruches en bois qui ont plus de 50 ans.
Donc, ça a commencé dans les Pyrénées, ça n'a même pas commencé,
voilà,
ici.
Ça a commencé dans les Pyrénées-Orientales par le pépé. En fait, si tu veux, on transhume souvent pour avoir d'autres parfums au niveau du miel.
Oui, avec les fleurs qui sont différentes entre
voilà,
ici.
Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je revendique mon toute fleur du village de Saint-André-de-Saint-Gonis. Mais si tu veux aujourd'hui avoir de la lavande, si tu veux aujourd'hui avoir du sapin, si tu veux avoir d'autres parfums...
Il faut partir.
Et voilà, aujourd'hui, tu es obligé de suivre les floraisons. Mais ça revient au climat que tu me parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est très dur de suivre le romarin, de suivre, tu vois, de suivre beaucoup de fleurs. Parce que y a une irrégularité dans cette nouvelle nature qui est infernale, quoi.
Et vous pouvez vous voir donc essayer de vous étaler un peu partout dans l'Occitanie, de ne pas rester qu'à Saint-André pour justement avoir ce changement de saveur avec vos miels?
Alors oui, on a, donc ça c'était à l'époque du pépé, on a eu la médaille d'or hors concours au Salon de l'agriculture à Paris sur du miel de tamaris, donc je ne pourrais pas te dire la date parce que malheureusement c'était du pépé, ça remonte, mais ce miel était, on a essayé d'en refaire, on en a eu fait un petit peu, mais pareil, voilà. Le tamari, c'est le seul arbuste qui a les racines dans l'eau, dans les étangs, dans l'eau salée. Donc, il fleurit sûr et certain. Bon, ça fait 40 ans qu'il fleurit sûr et certain. Là, ça fait 2 ans que le pauvre tamaris, pourquoi il ne fleurit plus? Ben, tu regardes les étangs un peu partout, ils sont vides. C'est aléatoire. Toutes les fleurs, là, aujourd'hui, on ne peut même plus se prononcer sur « Tiens, le mois prochain, j'aurai du tamaris, j'aurai du romarin. »
C'est beaucoup trop bouge. Ouais. Enfin, ça bouge trop.
On a eu bougé il y a 2 ans sur, même l'année dernière, hein, on a bougé sur le châtaignier, on a bougé sur la lavande, ça n'a rien donné, j'ai même pas fait un pot de miel. Aujourd'hui, il y a des apiculteurs qui font beaucoup de sortes de miel, hein. Je ne sais pas comment ils font.
C'est très compliqué.
Voilà.
Et donc, vous avez dit que c'est une entreprise familiale, et comment vous réussissez à aligner les deux, la vie personnelle et la vie avec le travail, enfin l'école et tout ça?
Souvent, le travail, je le fais l'après-midi, le mercredi après-midi quand j'ai pas cours, ou le week-end. Sinon, le soir quand j'arrive des cours.
Et t'as le temps quand même donc de faire tes devoirs, etc. Enfin, tu privilégies plus le travail ou l'école?
Les devoirs, soit je les fais à l'avance, soit quand j'ai le temps ou une petite heure que j'ai rien de prévu, je fais mes devoirs et après, voilà.
Tu réussis quand même à voir tes amis ou vraiment tu t'es tout le temps en train de travailler?
Non, je peux quand même les voir, mais je travaille aussi beaucoup.
Et donc, toi qui as tes propres ruches, tu te verrais plus tard travailler avec les pesticides?
Ben, ça tue énormément d'abeilles, énormément, beaucoup de ruches, mais c'est possible.
Et si vraiment c'est obligatoire, enfin, si t'en as pas le choix?
Okay. Oui.
Est-ce que ça te plaît vraiment, t'as fait le choix de travailler avec ton père dans l'entreprise familiale?
Oui, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, on rigole beaucoup, on travaille beaucoup, donc oui, ça me plaît.
Et tu devrais essayer donc d'élargir ce commerce familial plus grand dans l'Occitanie?
J'ai pas encore parlé de ça, enfin j'en ai pas encore imaginé à l'avenir.
Et tu vas quand même essayer de garder donc ce travail de main,
oui,
etc. C'est ancré,
oui.
Ok.
Du coup, vous pouvez nous retrouver sur la place de Saint-André du village un dimanche sur deux. Et le dimanche après-midi, vous pouvez nous retrouver à la miellerie pour la dégustation, la présentation et pour voir un peu comment ça fonctionne.
On a pu bien voir à quel point le métier d'apiculteur est difficile et en parenthèse, tous les éleveurs entre guillemets en général. Merci pour votre participation et d'être intervenu dans cette émission. Je ne mets pas trop. Il y aura une petite pause musicale et on se retrouve pour la troisième partie avec la présentation d'un livre ou de quelque chose qu'on aime bien.
Et du coup, qu'est-ce que t'as choisi comme morceau?
On va mettre du AC/DC, ça va péter les basses. A Ridgeway. Yeah.
et bienvenue sur Radio RPH dans l'émission Je ne mets pas trop. Je serai accompagnée de Lucas.
Bonjour.
D'Arthur.
Salut.
Et de Kéliane.
Bonjour.
Pour cette deuxième partie, nous allons parler de jeux vidéo.
Ben moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Fortnite. Il y a un nouveau pass de combat qui est totalement gratuit. En faisant des kills et en faisant des quêtes, on peut gagner une pioche, des skins et des styles.
Et du coup, c'est quoi l'histoire de Fortnite? C'est quoi
le but de Fortnite, c'est de faire des quêtes. Et au début d'une partie, on est 100. Et puis à la fin, il doit rester qu'un. Et tu dois faire le score le meilleur. Le meilleur score, c'est top 1.
Dis, ça veut dire quoi, skin?
Un skin, c'est si vous voulez un personnage, un avatar. Un style, c'est un style d'arme. C'est le camouflage de l'arme. Une pioche, c'est pour miner et prendre du bois. Et puis après, il y a les parachutes, c'est pour sauter du bus.
Bon, je crois qu'on connaît tous le principe d'un parachute et d'une pioche, non?
Oui.
Oui. Oui.
Sauf que c'est dans les jeux vidéo.
Bah, c'est à peu près pareil. Ouais.
Et maintenant, Brice va nous parler de son jeu vidéo qui est Roblox.
Alors, Roblox, c'est pas un jeu très normal. Déjà, quand tu vas sur Roblox, il y a plusieurs jeux. Donc des jeux de créatifs. C'est un jeu en ligne, du coup si t'as pas de connexion, tu peux pas jouer à Roblox. C'est un jeu où il y a plusieurs jeux en fait. Tu choisis ton jeu, tu peux ajouter des amis. Pour PC, c'est un peu compliqué parce qu'il faut lancer le jeu, faut le télécharger. Tu peux créer ton avatar, tu peux choisir ton mot de passe et ton pseudo.
Ok, et est-ce qu'il y a des genres de monnaie qu'on peut acheter?
Oui, on peut les acheter dans des magasins, par exemple Intermarché ou Micromania. Cet argent s'appelle les Robux. Il y en a qui coûtent 20 euros, 10 euros, mais sinon, après, on peut, avec les Robux, on peut soit acheter des avantages avec les jeux où on va jouer, ou soit les visages des personnages, des habits, des cheveux.
Maintenant, il y a Kylian qui va nous reparler de son jeu.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Luigi Mansion 3. Luigi Mansion 3, c'est un jeu de survie dans lequel Luigi est dans un hôtel dans lequel il doit chasser des fantômes. En fait, l'histoire, c'est les amis de Luigi, ils ont été piégés dans des cadres par le roi Boo, un boss. Et en fait, tu dois battre plusieurs boss et libérer les amis de Luigi dans des cadres.
Ok, est-ce que c'est payant ce jeu?
C'est un jeu qui se joue sur Switch. Oui, c'est payant. Il y a aussi un mode multijoueur, mais attention, le mode multijoueur, il est différent. C'est totalement différent que le jeu. C'est des quêtes et tout.
C'est une variante. Oui. C'est un mini-jeu à la Mario Party, un truc comme ça?
Non, en fait, c'est Luigi. Il est dans un hôtel et quand il doit s'aventurer dans l'hôtel.
Non, mais je te dis le mode multijoueur.
Ah, le mode multijoueur, en fait, c'est par exemple, t'es avec la personne avec qui tu joues, et il y a des fantômes qui sortent de n'importe où, et vous devez vous entraider pour tuer les fantômes.
Ok. Fortnite, c'est payant?
Non, c'est pas payant. Si vous achetez le jeu en carte, oui, mais si vous l'achetez directement sur Switch, sur le Nintendo eShop, c'est gratuit. Après, il y a une monnaie qui s'appelle les V-Bucks. Je sais que 1000 V-Bucks était égal à 7,99€. Puis après, vous avez une boutique où vous pouvez acheter des skins, donc des avatars, et des packs où il y a des styles, des skins, et plein de trucs comme ça. Et puis après, il y a plein de mini-jeux, comme des 1v1, donc une personne contre une personne, des trônes, donc un parcours où il y a 300 niveaux, et voilà, plein de trucs comme ça.
Pour les deux, je vais poser la même question aux deux, mais chacun son tour. Je vais commencer pour poser la question à Lucas. Est-ce que ça peut se jouer sur plusieurs plateformes, pas que sur Switch?
Alors, on peut jouer sur PC, donc sur ordinateur, sur Xbox, sur Switch, sur PS4, 5. Et déjà, j'avais une question. Du coup, Roblox, ça se joue sur quelle plateforme et c'est payant?
Alors, Roblox n'est pas payant, faut juste le télécharger. C'est un téléchargement plutôt rapide. On peut le télécharger sur PC et sur téléphone. Je vous conseille de le télécharger sur téléphone, comme ça les touches sont plus faciles. On peut pas y jouer sur Switch ni sur PS4 ni PS5.
Quel jeu vidéo vous préférez dans votre vie?
Ben, Roblox. Enfin, ça dépend parce que...
En jeu multijoueur, quel jeu vous préférez?
En jeu multijoueur, Fortnite.
Fortnite.
Mario Party.
Ah oui, Mario Party.
Bon, et maintenant, en jeu solo, quel jeu vous préférez?
En jeu solo, j'adore Mythopia.
Mythopia est une aventure fantastique. Mythopia est une ville enchantée. Il y a tout le monde qui est content, qui joue. Jusqu'à un jour, le jour où l'avatar du mal vient pour voler tous les visages des gens. C'est à ce moment-là qu'un jeune aventurier, qui deviendra le héros accompagné de quatre personnages ou équipiers, dont un cheval, va essayer de vaincre l'avatar du mal et de rendre tous les visages aux villageois. Il y a des batailles, il y a des cinématiques des fois aussi. C'est un jeu en ligne, donc on peut y jouer partout. Il y a plusieurs classes, le héros, on peut choisir sa classe. Par exemple, j'ai choisi la classe de guerrier, mais il y a plein d'autres classes. Il y a la classe magicien, prêtre, voleur, etc. Je vous laisse découvrir en tout cas.
Oula, faut que j'y aille moi!
C'est 16h, mon père m'attend!
On refait la partie. Bon, quel jeu multijoueur vous préférez?
Moi, c'est Fortnite.
Moi, j'ai une préférence pour Mario Party.
Moi, c'est Fortnite, mais Mario Party est vraiment un bon jeu.
C'est vrai, c'est vrai.
Après, moi, j'aime bien aussi les jeux multijoueurs avec plusieurs jeux où on peut jouer au bowling.
Au bowling, oui, entre 51 World Wide Game.
Ouais, voilà. Et en jeu solo maintenant, quel jeu vous préférez sur Switch?
Alors, ça, c'est très simple. Un seul mot, c'est Mythopia. J'adore ce jeu. C'est mon jeu numéro 1 du moment. Voilà.
Moi, c'est Kirby Star Allied.
Et moi, c'est Fortnite.
Kirby Starlight, ça existe que sur Nintendo 3DS, non? Parce que moi, j'ai jamais vu sur Switch.
Moi, j'ai Kirby Starlight sur ma Switch.
Ah.
Ok, maintenant, en multijoueur sur votre téléphone portable. Moi, j'aime bien jouer à Roblox avec mes copains.
Roblox.
Ouais, c'est le seul jeu multijoueur que j'ai. Après, il y en a plein, hein. Il y a Stumblegaze, il y a...
Ah ouais, non, en fait, c'est clairement mieux Stumblegaze.
Il y a Fall Guys, il y a plein de trucs, hein, mais moi, le seul jeu que je joue sur mon iPhone, c'est Roblox.
Ok, et maintenant, quel jeu solo vous préférez?
Moi, c'est Legend of Slime, c'est un jeu d'aventure sur mon tel où tu joues un slime qui a des capacités.
Cool!
Ok, et moi, c'est Fall Guys.
Fall Guys, ouais. Mais on peut jouer à deux sur Fall Guys.
Oui, je sais, mais je joue tout seulement. Et toi, Brice, c'est quel jeu que tu préfères?
Franchement, moi je joue souvent en multijoueur parce que je suis éclatée en solo. Ouais, bon, je joue pas en multijoueur quoi. Bon, en résumé, nous avons parlé de jeux vidéo, de tendances qu'on avait préférées. On a parlé de jeux solo multijoueur. On a fait le tour des jeux vidéo. Merci à vous trois, merci aux auditeurs
et merci à nos deux régisseurs. C'est déjà la fin de cette émission et nous vous remercions et on se retrouve en juin pour les événements manga.
Au revoir.
La radio Interco. C'est 5 villes.
C'est la Comcom Vallée de Hérault.
Avec plusieurs espaces jeunes du territoire.
Réunis pour une même émission.
Chaque mois, de nouveaux sujets. Découverte d'une profession, d'un patrimoine, d'une passion. Partager nos idéaux.
On abordera la culture, mais aussi les sujets qui intéressent les jeunes.
Je n'ai pas trop.